Vous entendez bien, c'est pas? N'hésitez surtout pas à faire signe. Si jamais il y a besoin de parler plus fort, fêter le micro.
Alors qu'Abraham avait 86 ans, sa femme, Sarah, lui suggère
alors sa propre servante. Cette union donne naissance à Ismaël. C'était une pratique qui pouvait avoir lieu à l'époque. Cela ne signifie pas forcément que Dieu approuvait cette pratique, mais voilà, ça se faisait. D'ailleurs, Dieu lui fait comprendre assez rapidement que ce n'est pas Ismaël l'enfant promis, mais il faut encore attendre pour que l'enfant de la promesse arrive. Abraham et Sarah ont du mal à y croire. Le couple est très âgé. Abraham approche des 100 ans et Sarah approche des 90 ans. Mais Dieu rappelle sa promesse sans cesse, à plusieurs reprises, et le couple s'y accroche. Nous arrivons maintenant au texte qui aborde enfin la réalisation de cette promesse. Il s'agit du récit de la naissance de l'enfant tant attendu, l'enfant promis. C'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 21, versets 1 à 21. L'Éternel intervint en faveur de Sarah comme il l'avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sa femme tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac, le fils qui lui était né, que Sarah lui avait donné. Il circoncit son fils Isaac lorsqu'il fut âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Sarah dit, « Dieu m'a donné un sujet de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait osé dire à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils de l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut beaucoup à Abraham, parce que c'était son fils. Cependant, Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ton esclave. Quoi que te dise Sarah, écoute-la, car c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, car il est ta descendance. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis, à la distance d'une portée d'arc, car elle se disait, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à pleurer tout. Dieu entendit les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit, « Qu'as-tu, Agar ? N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant, là où il se trouve. Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle alla remplir l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant. Celui-ci grandit, habita dans le désert et devint tireur à l'arc. Il s'installa dans le désert de Paran et sa mère prit pour lui une femme égyptienne. Voilà dans notre texte. Ce récit est surprenant, car c'est un passage qui aurait dû être marqué par la joie de la naissance. Mais cette joie laisse vite la place à un déchirement. Agar et Ismaël sont chassés dans le désert. Le premier point que je veux relever, alors on va revoir ce texte dans son ensemble, le premier point que je veux relever, c'est que nous pouvons compter sur Dieu, même quand les circonstances sont défavorables. Abraham était très âgé, Sarah était stérile. Humainement parlant, son couple ne pouvait plus espérer avoir un enfant. Mais le miracle se produit. Et ce qui me frappe dans ce récit, c'est la simplicité. La naissance est racontée dans les deux premiers versets. Et c'est très simple. C'est même un peu décevant pour le lecteur qui lit l'histoire d'Abraham depuis le début. Parce que pendant près de 10 chapitres, il y a un suspense. Quand est-ce que l'enfant va naître? Et pratiquement tout le parcours d'Abraham est rythmé par cette attente et cette promesse qui date à sa vie. Dans la plupart des romans, dans la plupart des films au cinéma, on a généralement la trame suivante. On nous présente une situation de départ. Les personnages vivent leur vie, plus ou moins normalement. Et très vite, cette situation de départ est dérangée par un élément perturbateur. Par exemple, il y a un enlèvement, une bombe va exploser, un tueur en série fait des victimes. L'héroïne féminine tombe amoureuse d'un homme qui est déjà avec l'autre, etc. Et le scénario va consister à présenter au lecteur, au spectateur, ou au spectateur, comment la problématique va se résoudre. Et en général, au moment du dénouement, on s'attarde sur la scène finale, la scène victorieuse. Il y a comme une courbe qui monte jusqu'au moment tant attendu. Et quand la scène arrive, c'est spectaculaire. La scène où l'on attrape le méchant, la scène où l'on désamorce la vie, etc. Dans l'histoire d'Abraham, on pourrait penser que le dénouement, c'est la naissance de l'enfant. Mais ce n'est pas le cas. Le point culminant de l'histoire d'Abraham se trouve à un autre endroit. Nous le découvrirons dans un autre chapitre. Ici, la scène est présentée de manière très succincte. Verset 1 et 2. L'Éternel intervint en faveur de sa femme, Sarah, comme il l'avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Pourquoi tant de simplicité? Pourquoi si peu de détails? Parce qu'il n'y a aucune surprise. En fait, il n'y a aucun suspense. Tout était déjà prêt. Dieu l'a promis. Dieu le réalise. Pourquoi être surpris de quelque chose que Dieu a annoncé des années à l'avance? Le texte souligne à 3 reprises que c'est un accomplissement prévisible. Relisons encore ces versets. L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sa femme, Sarah, tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé, dont Dieu lui avait parlé. Rien que dans cette phrase, à 3 reprises, il est précisé que tout était déjà promis, annoncé par Dieu. Dieu l'a promis, Dieu l'a fait. Pourquoi s'inquiéter alors que l'enfant n'arrive pas? Parce que le couple était âgé? Parce que Sarah était stérile? Non, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter, car Dieu l'avait promis. Notre nature humaine a tendance à s'inquiéter et à se laisser décourager par les obstacles. Mais Dieu prend soin de ses enfants. Même quand les circonstances sont défavorables, nous pouvons compter sur lui. Et en ce moment, nous vivons une période qui pourrait nous paraître défavorable. L'économie nationale est fragilisée. La confiance dans le pouvoir public ne s'est pas vraiment améliorée. Il y a une crainte d'une deuxième vague d'épidémie. Les évangéliques ont voulu être critiqués à cause du grand rassemblement de Mulhouse. Nos rencontres doivent respecter des protocoles précis. Nous ne savons même pas quand est-ce que nous allons pouvoir organiser de nouveau un parcours alpha. Nous avons dû reporter 2 baptêmes, comme Gilles l'a dit tout à l'heure. L'énumération de ces circonstances pourrait nous décourager. Nous pourrions penser que notre témoignage est comme empêché ou rendu plus difficile. Mais ce n'est pas le cas. Si les promesses de Dieu s'accomplissent à tous les coups, alors aucune circonstance défavorable n'empêchera l'Église d'accomplir sa mission, de témoigner et de proclamer la parole de Dieu. Ne soyez pas découragés, mais plutôt encouragés, car rien n'empêche les promesses de Dieu de se réaliser. À nous de rester attentifs au Saint-Esprit, poursuivre sa voie et passer par des chemins par lesquels nous n'aurions peut-être pas pensé. Le deuxième point que je veux souligner, c'est que nous pouvons compter sur Dieu, même quand nous faisons des erreurs. Juste avant que Sarah ne tombe enceinte, Abraham venait de mentir une deuxième fois à cause de son manque de confiance. Au chapitre 20, il fait passer sa femme pour sa sœur et il avoue même que c'est par peur d'être tué. Malgré sa foi hésitante, malgré ses erreurs, Dieu continue de bénir Abraham. Tout simplement parce que Dieu ne fonctionne pas avec nous sur le principe des mérites. L'amour de Dieu est gratuit. Le pardon est gratuit. Les bénédictions sont gratuites. En revanche, la gratuité coûte toujours à quelqu'un. Quand vous recevez un cadeau, c'est gratuit pour vous. Mais celui qui vous l'offre a payé. Dans le cas du pardon de Dieu, il est gratuit parce que le Fils de Dieu a payé le prix sur la croix. Ainsi, Dieu ne condamne plus le pécheur. Ce cadeau est gratuit. Mais nous ne devons pas mépriser ni négliger ce cadeau parce qu'il a coûté très cher à celui qui nous l'a offert. Au temps d'Abraham, Jésus n'était pas encore né, mais Abraham a pu être béni malgré ses erreurs, car Dieu était justement en train de préparer la solution au problème du péché. C'est bien de la descendance d'Abraham et d'Isaac que Jésus va naître. C'est lui qui apportera une bénédiction pour toutes les nations de la terre. C'est grâce à Jésus que nous pouvons recevoir toutes sortes de bénédictions malgré nos erreurs. Et Dieu n'attend pas que nous méritions, que nous méritions son intervention. Nous pouvons donc compter sur lui, même si nous n'avons pas toujours agi selon sa volonté. Mais cela n'est pas une invitation à négliger notre comportement. Au contraire, puisque Dieu paye un grand prix pour nous pardonner, efforçons-nous de respecter ce cadeau, le cadeau de sa grâce. Imaginons que vous avez besoin, je crois, par exemple, d'une voiture, et que l'un de vos proches se donne du mal pour économiser et vous offrir une voiture. Si vous aimez cette personne, vous n'allez pas vous dire « Ah ben, comme c'est gratuit, ce n'est pas grave si je ne prends pas soin de la voiture. De toute façon, elle ne m'a rien coûté. » Au contraire, si vous aimez vraiment la personne qui vous a offert le cadeau, vous allez prendre soin de ce cadeau, même si il ne vous a rien coûté. Et ce cadeau est d'autant plus précieux si vous vous rendez compte que vous en avez besoin. C'est pareil avec la grâce de Dieu, et c'est même encore plus. Tout le monde n'en a pas conscience, mais nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu pour le pardon de nos fautes, pour recevoir la vie éternelle. Ce cadeau est gratuit, même si nous avons fait des erreurs. Mais ce n'est pas une raison pour continuer intentionnellement de faire des erreurs. Respecter la grâce de Dieu, c'est aimer Dieu. Et c'est aussi aimer ce que Dieu aime. Enfin, le troisième point que je veux relever, c'est que Dieu prend soin de nous, même quand tout le reste du monde nous met à l'écart. Je ne sais pas si Abraham était dans la joie au moment de la naissance de son fils. Le texte ne dit rien sur son état d'esprit. La joie d'accueillir un enfant, il l'a déjà expérimenté plutôt avec Ismaël. Il organise quand même une fête au moment où Isaac est sauvé, mais c'est aussi la tradition. Je ne dis pas qu'Abraham n'aime pas son fils, au contraire, la suite de son histoire nous montrera qu'il aimait énormément son fils. J'aurais juste qu'ici, le texte ne mentionne rien sur les émotions d'Abraham. En revanche, Sarah explique sa joie dans les versets 6 et 7. Elle dit qu'elle a un sujet de rire dans le sens où elle a un sujet de réjouissance. Si Abraham ne veut pas exprimer d'émotion à la naissance d'Isaac, il manifeste une grande peine quand Sarah lui demande de se séparer d'Ismaël et de sa mère Agar. En effet, Sarah ne souhaite pas que l'héritage soit partagé. Laisser son fils être chassé loin de soi, sans certitude de le revoir un jour, c'est un déchirement. Dans un premier temps, on pourrait penser que Dieu ne veut pas d'Ismaël, car il incite même Abraham à faire ce que Sarah demande. C'est ainsi qu'à l'âge de 14 ans, Ismaël est envoyé dans le désert avec Agar, sa mère. Abraham leur donne du pain et une outre d'eau. Alors, une outre, c'est une sorte de grande gourde en peau d'animal. On assiste alors à une scène dramatique. L'eau vient à manquer. Ils sont dans le désert et la mort est proche. Agar ne veut pas voir son fils mourir de soif, alors elle s'éloigne de lui. Ismaël a peut-être le sentiment d'être doublement abandonné. Par son père, d'abord, puis par sa mère. Pourtant, ses parents l'aiment, mais il se retrouve quand même dans cette situation dramatique. Alors, Dieu est attentif au cri de l'enfant. Il permet à sa maman de trouver une source d'eau, un puits. Et le texte insiste sur l'attention de Dieu. Il a entendu les cris de l'enfant, du jeune homme, et il l'a sauvé. Dieu ne l'a pas rejeté, mais il avait un autre plan pour Ismaël. Ce récit montre une fois de plus que nous pouvons compter sur Dieu, même quand nous pensons être rejetés de tous. Peut-être que cela vous arrive de vous sentir différent à cause de votre statut social, à cause de votre santé, de votre situation familiale, de vos origines, de votre physique, etc. Peut-être même que vous vous sentez mis à l'écart par certaines personnes, sans forcément savoir pourquoi. Dieu, lui, ne met personne à l'écart. Il a choisi Abraham et Isaac, non pas pour écarter les autres, mais pour constituer une descendance jusqu'à Jésus, afin de bénir toutes les nations de la terre, sans distinction. Pour conclure, je pense que ce texte nous invite à nous rendre compte de ce que signifie avoir foi en Dieu et compter sur Dieu. Quels que soient les obstacles, quelles que soient nos erreurs, quel que soit le regard des autres sur nous, même quand nous ne pouvons plus attendre, plus rien attendre de personne, nous pouvons toujours compter sur Dieu. Que le Seigneur renouvelle notre joie de lui appartenir, qu'il renouvelle notre foi et qu'elle puisse être confiante en toutes circonstances. Amen.